Salut, salut, c'est mes petits lus. Je m'appelle Sylvie Rimlinger et je blogue sur l'écriture. Aujourd'hui, un petit lu un peu spécial, puisqu'il ne sera pas publié chez moi, mais chez Frédéric Canevet de Conseil Marketing. Vous l'avez compris, ce podcast s'adresse aux blogueurs et blogueuses et devrait vous permettre d'améliorer sensiblement votre façon d'écrire des articles. Mes petits lus, c'est le podcast du blog Écrire de la fiction, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. On y parle d'écriture et de littérature. Allez, en voiture! Aujourd'hui, je vais vous parler des 11 erreurs de rédaction qui décrédibilisent vos articles pour vous aider à écrire encore mieux. Je suis donc Sylvie et je blogue donc sur l'écriture. Frédéric me fait l'honneur de m'inviter chez lui le temps d'un podcast. J'ai créé un service de relecture à destination des blogueurs, blogueuses et depuis que je travaille sur vos articles, j'ai identifié des erreurs de rédaction récurrentes et rédhibitoires qui éloigneront le trafic de votre blog. Dans ce qui suit, je vais lister ces erreurs les plus fréquentes. Elles plombent votre prose et peuvent vous empêcher d'atteindre le résultat que vous vous êtes fixé, apparaître en première page de Google. Je vous donnerai également une checklist à suivre avant de publier. Cet article s'adresse donc à tous ceux et celles qui écrivent pour être lus et ont à cœur d'améliorer leur écriture. Entrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1, les verbes faibles affaiblissent vos textes. D'après Gustave Flaubert, tout le talent d'écrire ne consiste, après tout, que dans le choix des mots. Avoir, faire, mettre, voir, ce sont ce que j'appelle des verbes faibles. Je les retrouve à toutes les sauces dans vos articles. Avoir un blog, plutôt que bloguer. Faire un article, au lieu de écrire un article ou publier un article. Mettre un lien, à la place de insérer un lien. C'est une épidémie. Le champion toute catégorie, le plus virulent de tous, qui s'abat sur tous vos contenus comme la pauvreté sur le monde, faire. Le verbe faire est la plaie récurrente de vos textes. Établir, créer, effectuer, entreprendre, organiser, mettre en œuvre, mettre en place, élaborer, opérer, préparer, procéder, se livrer à, accomplir, traiter, agir, mijoter, polir, usiner, transformer, goupiller, façonner, dresser, construire, mitonner, édifier, bâtir, fonder, forger, cultiver, confectionner et bien d'autres sont des synonymes de ce sacre bleu de verbe faire. Ne vous en privez pas. Les verbes les plus utilisés en français, toutes tendances confondues, sont être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, savoir, vouloir, trouver, donner, prendre, parler, aimer, passer, venir, falloir, devoir, croire, mettre. Tous, sans exception, peuvent être remplacés par un verbe plus précis. La précision est votre amie. J'ai lu il y a peu « Avoir un blog fait écrire beaucoup ». J'ai proposé à la place « Animer un blog conduit à écrire régulièrement ». Cela vous semble peut-être futile. Pourtant, je vous garantis que bout à bout, tous les verbes faibles insérés dans vos articles démontrent votre manque d'assurance ou bien pire, votre confusion. Erreur numéro 2, publier immédiatement in extenso. D'après Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Une fois que votre texte tient debout, laissez-le reposer une journée, ou plus, si vous avez un peu d'avance sur votre calendrier éditorial, comme tout bon rédacteur. Puis, supprimez les adverbes, sabrez les adjectifs redondants, éliminez sans pitié les parenthèses, passez les apartés à la trappe. Mon conseil va sûrement vous surprendre, c'est celui que l'on donne à tout écrivain, journaliste ou rédacteur débutant. C'est ce que font la plupart des auteurs confirmés. Coupez 10% de votre texte. Vous avez bien entendu. 10%, cela peut paraître beaucoup. Sur un article de 3000 mots et des poussières, tel que celui-ci, ça représente une vingtaine de lignes à peine. On compte 15 mots en moyenne par ligne, corps 12. Soyez curieux. Faites l'expérience. Reprenez un ancien article et enlevez-y toutes les scories que vous pourrez identifier. Vous verrez que ce n'est pas si difficile une fois qu'on a compris le truc. Comptez les mots avant et après. Combien en avez-vous bazardé ? Appliquez ensuite systématiquement ce conseil. Donnez de la force à votre texte. Ne vous satisfaites jamais d'un premier jet. Erreur numéro 3, les répétitions qui usent. Stephen King nous dit que la règle vaut quand même, car écrire est humain, mais corriger est divin. Soyez aussi très prudent avec les recommandations de Yoast SEO. Ce plugin génial vous dira s'il manque selon lui des mots de liaison, mais jamais s'il y en a trop. Or, il n'est pas rare qu'il y en ait trop dans vos pages. Pourquoi utiliser donc à toutes les sauces, même sans lien de cause à effet? Serait-ce effectivement pour faire plaisir à Yoast que chacune de vos phrases commence par « en effet, cependant, bien sûr » Si vous tenez à en utiliser partout, car c'est comme cela que vous parlez naturellement, c'est ok. Vous parlez bizarrement. N'employez pas toujours le même. Dans ce cas, le français est une langue riche. Les petits mots sont légion. Réservez-les pour le début de chaque nouveau paragraphe afin de l'articuler avec le précédent dans une suite logique d'idées. Évitez absolument, je répète, évitez absolument d'employer « mais » dans plus de 5% de vos phrases. Vous transmettez de la négativité, du rejet, de la fermeture. Allez-y, faites le test. Reprenez votre dernier article et comptez le nombre de « mais ». Tant que vous y êtes, comptez-les « donc ». Mais comptez-les donc, vous dis-je. Variez les transitions et bannissez les tics de langage. Vos lecteurs apprécieront. Erreur numéro 4, mélangez le « tu » et le « vous », la voix active et la voix passive. Pour André Gide, chaque progrès dans l'art d'écrire ne s'achète que par l'abandon d'une complaisance. Vous adressez-vous au lecteur, oui ou non, en le voussoyant ou en le tutoyant? Prenez une décision une fois pour toutes et ne variez plus d'un iota. Cela fait partie de votre ligne éditoriale et ne doit pas être modifié selon votre humeur du jour, a fortiori en cours d'article. Accordez-y aussi le reste de vos phrases. Préférez les adjectifs possessifs aux bêtes pronoms. Par exemple, « Hier, j'ai remplacé un mot dans la phrase suivante dans un article dont je tairai l'auteur. » Il vous suffit d'en télécharger une et de saisir dans la barre de recherche deux points, etc. Je propose plutôt, il vous suffit d'en télécharger une et de saisir dans votre barre de recherche, deux points, etc. Vous avez attrapé le lecteur. Ne le lâchez plus. Tenez sa main jusqu'au CTA en bas de page. Idem pour voix active et voix passive. La voix active, c'est quand vous écrivez « accordez EZ » le reste de vos phrases. La voix passive, c'est « accordez ER » le reste de vos phrases. Si vous êtes vigilant, vous vous apercevrez que pour cet article, après un titre qui vous interpelle, forme active, j'ai préféré utiliser la forme passive dans les titres et la forme active dans le texte des paragraphes. Pourquoi ? De cette façon, la liste d'erreurs n'est pas trop agressive. En revanche, je m'adresse ensuite directement à vous pour vous conseiller la meilleure option et vous expliquer pourquoi. Tous mes textes, à l'intérieur des paragraphes sans exception, sont à la forme active. La cohérence est ainsi renforcée. Erreur numéro 5, écrire des phrases trop longues. Renoncez absolument aux phrases longues qu'on devine plus qu'on ne les lit. C'est Jules Renard qui note cela dans son journal. Les phrases longues, c'est joli. Les phrases très longues, c'est ennuyeux dans un article de blog. Ce qu'un écrivain pourra se permettre, car cela l'aidera à installer une ambiance, à décrire un état d'esprit, passera chez vous pour de l'amateurisme. Vous écrivez pour informer, avant tout. Le message qui doit transparaître dans vos phrases, c'est que vous êtes un pro qui va droit au but. Les phrases très longues dans le contexte d'un article nuisent à la compréhension et favorisent les erreurs de ponctuation et les fautes d'orthographe. en particulier les accords fautifs. Je lis très souvent des phrases dans vos articles qui commencent comme un roman du XVIIIe, siècle, pas arrondissement, et se terminent en eau de boudin, par une proposition à la va-vite qui mériterait de faire l'objet d'une nouvelle phrase. La règle ? Une idée par paragraphe. Chaque phrase apporte un élément nouveau. La meilleure façon d'écrire une phrase, c'est sujet, verbe, complément. La simplicité, votre ami, assurez-vous d'être compris, pas de faire joli. Erreur numéro 6, n'écrire que des phrases très courtes. Une phrase n'est bien construite que si personne ne remarque qu'elle a été construite. C'est de James Baldwin. Les phrases très courtes, c'est efficace. Très efficace. Péchu. Cependant, en abuser transmet un sentiment d'urgence, voire d'insécurité à votre lecteur. Encore une fois, évitez ou gardez ça pour vos séquences de vente. La bonne manière de procéder, c'est de rythmer votre propos en alternant phrases courtes et phrases longues. Je lis aussi dans vos articles beaucoup de phrases courtes terminées par un point d'exclamation, si ce n'est deux ou trois. Pas la peine d'en faire des caisses, si vous me permettez cette familiarité. Le point d'exclamation est conçu pour exprimer une exclamation, sans avoir besoin de le doubler. J'aurais pu écrire plus haut les phrases très courtes, virgule, c'est efficace, point d'exclamation, très efficace, point d'exclamation, péchu, trois points d'exclamation, donnant ainsi à ma prose l'allure d'un diable sortant d'une boîte. Cela aurait été disproportionné par rapport à mon sujet. Ne transmettez pas un enthousiasme forcé. Vous passeriez pour un baltringue. Erreur numéro 7, ne pas rédiger d'introduction ni de conclusion ou les bâclés. On écrit pour toujours ou ça ne vaut rien, nous dit Pierre Reverdy. Je vois aussi passer beaucoup d'articles qui me donnent l'impression d'avoir été écrits à la va-vite, juste pour sacrifier à la sacro-sainte règle de publier un nouveau contenu par semaine. Les articles à la ligne directrice peu claire sont pléthores. Ils sont bien souvent le fait d'un débutant ou d'une débutante qui les reliera le rouge aux joues quelques mois plus tard avant de les balancer dans la corbeille. À force d'écrire, même les mauvais rédacteurs s'améliorent. C'est mécanique. Plus vous écrivez, mieux vous écrivez. Cependant, il y a un défaut qui perdure longtemps, c'est l'absence d'introduction et ou de conclusion qui tiennent la route. Peut-être n'aimiez-vous pas l'école et viviez-vous comme une punition les longues rédactions obligatoires et plus tard les dissertations. Peut-être essayez-vous d'oublier tout ce qu'on a tenté de vous y inculquer. Ou peut-être avez-vous hâte d'en finir pour publier et passer à autre chose. Pourtant, s'il y a deux parties de vos articles auxquelles apportez toute votre attention, ce sont bien introduction et conclusion. De nombreux lecteurs aguerris, alléchés par les titres, lisent l'intro, les sous-titres et, toujours scrollant, volent en bas de page vers la conclusion. Puis, s'il leur semble qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre, ils reviennent au début et entament la lecture. Pour cette raison, votre introduction doit présenter clairement le contenu de votre article. N'hésitez pas à vous spoiler vous-même, ouvrez l'appétit du lecteur potentiel. Et tenez vos promesses, il n'y a rien de plus agaçant qu'un article qui vous promet monts et merveilles dans son titre et vous laisse sur votre faim avec deux ou trois conseils réchauffés en guise de viatique. Une bonne conclusion reprend les idées principales de votre article en une phrase ou deux. Le lecteur, qui est arrivé jusque-là, doit pouvoir prendre rapidement des notes mentales ou physiques. C'est à ce moment qu'il choisit de vous enregistrer comme favori ou pas. De vous laisser son adresse mail en échange de votre cadeau, ou pas. S'il s'agit d'un article liste tel que celui-ci, faites un bref rappel sous forme de liste à puces ou insérez une infographie à enregistrer ou partager dans les réseaux sociaux. Moi, je fais souvent les deux. Mais, vous l'avez compris, j'aime bien optimiser ma prose en une seule fois. Votre conclusion contiendra aussi un appel à l'action explicite et incitera à rester sur votre blog. Pas de négociation possible là-dessus. Je vous conseille fortement de commencer par rédiger votre conclusion pour vous fixer un cap, puis votre introduction contenant une promesse. Erreur numéro 8, choisir vos sous-titres au petit bonheur ou répéter la même rengaine de H2 en H2. Il ne faut pas mettre du vinaigre dans ses écrits, il faut y mettre du sel, nous dit Montesquieu. Dans l'idéal, la table des matières de vos articles doit en effet refléter le contenu. Un lecteur pressé doit pouvoir lire l'intro, les titres et la conclusion et s'en faire une idée précise. Une fois au clair avec introduction et conclusion, écrivez les titres 2 et, le cas échéant, les titres 3 avant d'attaquer le corps de votre texte. Je répète souvent que le temps d'attention d'un adulte sur Internet est de 12 secondes. C'est Microsoft qui le dit. Leur expertise n'est pas remise en cause. Ce qui signifie que vous avez très peu de temps pour convaincre l'adulte de lire votre article. Attention, encore une fois, Yoast SEO vous conseillera de placer un sous-titre tous les 3 mots et de reprendre votre mot-clé principal dans tous vos titres 2. Faites donc ça, mais pas trop. Écrivez pour les personnes physiques, pas pour l'algorithme. Ne lassez pas votre lecteur. En exemple, vous pouvez consulter la table des matières de mon article « Correction de texte, 10 raisons de passer par un correcteur professionnel, test correcteur gratuit inclus ». Cette table des matières présente le double avantage d'indiquer précisément le contenu de l'article et d'attirer l'attention vers le test des correcteurs gratuits en ligne. Il s'agit des 8 premiers dans la SERP que nombre d'entre vous utilisent. J'ai donc de bonnes chances de piquer la curiosité et d'inciter à la lecture. J'attire votre attention sur la table des matières. Si vous n'en utilisez pas, vous perdez un bon moyen d'améliorer vos articles et votre référencement naturel. En revanche, voyez que je n'ai pas écrit pour plaire à Yoast. Sans quoi, vous liriez mon mot-clé principal dans chaque sous-titre. À quoi bon les alourdir, alors que ce qui compte aux yeux de l'algorithme, ce que fait pour vous Yoast SEO, c'est principalement de renseigner vos métadonnées et vos balises. Erreur numéro 9, ne pas prendre le temps de vous relire et laisser traîner des coquilles. Faites dire aux petites phrases de grandes choses. Joseph Joubert. J'affirme, au vu des résultats du test mentionné dans l'article, que les correcteurs gratuits en ligne ne fonctionnent pas. Ne leur faites pas confiance. Apprenez plutôt à vous relire efficacement. 3 relectures sont nécessaires et permettent de désinguer 95% des fautes, coquilles et maladresses. Si le plan est bon et qu'introduction, titre, sous-titre et conclusion racontent déjà bien votre propos, faites une première lecture à voix haute. Vous saurez tout de suite où le bât blesse car vous buterez sur les obstacles. Faites les modifications pour rendre vos phrases fluides, alternez court et long, positionnez correctement les virgules. Si vous n'êtes pas sûr de vous, enregistrez-vous et écoutez-vous. Votre oreille exercée au podcast et sons en tout genre décèlera les problèmes. Consacrez la deuxième relecture à la traque des doublons et des redites. Il en reste toujours. Examinez les verbes faibles, remplacez ce qui doit l'être. Tronçonnez les phrases trop longues. Élaguer ce qui ne sert à rien. La troisième relecture servira à vérifier une dernière fois l'orthographe et la conjugaison, la voix active et la voix passive. Erreur numéro 10, abuser du langage parlé et des émoticônes. Commencez systématiquement vos phrases par « en vérité, je vous le dis », on se dira « ce type me fait penser à quelqu'un », nous dit Denis Langlois. Votre principal objectif et bien de développer une communauté solide afin de monétiser votre blog, n'est-ce pas? Dans ce but, vous tentez de nouer une relation sincère et bienveillante avec votre audience. C'est tout à votre honneur. Cependant, ne perdez pas de vue que votre lecteur n'est pas votre pote. Il ne vous lit pas pour passer un bon moment de détente et de rigolade. Il attend un article carré qui lui fasse gagner du temps en lui apprenant quelque chose de nouveau. Méfiez-vous comme de la peste des « un », « lol » et autres PTDR qui vous font passer pour un ado en pleine crise de puberté. Idem concernant les émoticônes. N'en abusez pas. Une ou deux dans le corps de votre article, bien placés, donneront la touche de décontraction souhaitée. Plus, ce sera du parasitage. Un aspect décoratif n'est pas une option pour développer une image professionnelle. Réservez les émoticônes pour vos contacts Facebook et vos messages personnels. Les 1 pour vos vidéos YouTube. Ne vous y trompez pas, les blogueurs qui réussissent savent doser sincérité et professionnalisme avec parfois une légère touche de fantaisie. Gardez les démonstrations d'affection et les débordements pour vos potes. Erreur numéro 11, écrire le même mot de plusieurs façons dans le même article. Produire beaucoup, ne publier que le meilleur. Jules Renard. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est une erreur présente dans 90% de vos contenus. Je trouve souvent, dans le même article, voire dans le même paragraphe, mots-clés et mots-clés, le premier sans trait d'union, le second avec, ou YouTube, avec les majuscules de rigueur, et YouTube, tout en minuscules. Cela me gêne. L'esprit humain est ainsi conçu qu'il se focalise sur ce qui ne va pas. C'est une survivance de l'époque où il fallait être aux aguets pour déceler les prédateurs ou les ennuis potentiels dans le paysage. N'éveillez pas l'inquiétude dans le cerveau de votre lecteur. Gardez ça pour vos pages de vente. Cela peut sembler anodin, mais n'oubliez pas que les gens qui choisissent de vous lire plutôt que de voler vers votre chaîne YouTube ou celle de votre concurrent direct sont des gens qui aiment lire et qui repèrent ce genre de détails. Choisissez votre graphie et tenez-vous-y, même si vous optez pour une graphie fantaisiste, ce qui est votre droit le plus strict. J'écris week-end, O-U-I-Q-U-E-N-D-E, à la française, au lieu de week-end, comme on a l'habitude de l'écrire depuis de nombreuses années. Je n'ai pas changé ma façon d'agir en me mettant à bloguer. Je suis restée moi-même. J'ai donc continué à user de cette orthographe fautive et très personnelle. Mais je l'écris toujours de la même manière. Ça fait partie de ma marque de fabrique. Ça va? Je ne vous bouscule pas trop? Prenez un moment pour boire un café, vous venez de lire 3000 mots qui remettent peut-être en question votre vision de votre métier, ou de les écouter en podcast. Nous venons de voir ensemble les 11 erreurs de rédaction les plus fréquentes et pourquoi elles décrédibilisent vos articles. Commencez aujourd'hui à appliquer mes conseils, améliorez sensiblement votre écriture et prenez de plus en plus de plaisir à écrire. Pour résumer et conclure, voici dorénavant votre checklist de rédacteur chevronné. Laissez reposer votre texte au moins une journée pour le relire avec un œil neuf. Relisez-le au moins 3 fois, dont une fois à voix haute. Si vous avez un peu de temps, enregistrez-vous et écoutez ce que ça donne. Ce faisant, traquez les 1, lol, MDR et les émoticônes. Portez une attention spéciale au verbe, pluriel ou singulier. N'y a-t-il pas une meilleure formulation? Dosez voix active et voix passive. Favorisez la voix active. Vérifiez les pronoms et les adjectifs possessifs. À qui parlez-vous? Vérifiez que votre entrée en matière correspond bien au contenu de votre article et que les titres et sous-titres sont clairs, concis et reflètent le cheminement de votre pensée. Vérifiez aussi votre conclusion. N'oubliez pas l'appel à l'action. Comme n'importe quel auteur qui a le respect de son public, coupez 10% de votre texte pour le rendre plus péchu, en particulier tous les adverbes. Une dernière chose avant de vous lâcher. Amusez-vous. Facile à dire ? Soyez conscient que plus vous prendrez de soin à écrire, plus vous apprendrez, plus ce sera facile, plus vous vous amuserez. Remplacez un mot par un autre meilleur dans le contexte, réorganisez une phrase trop longue, trouvez la juste expression, supprimez les doublons et les à peu près, bref, parvenir au meilleur contenu possible et jouissif. Dans jouissif, il y a jeu et il y a joie. En voilà 2 qui vont bien ensemble. Souhaitez-vous en savoir plus ou recevoir mon guide sur les règles de la ponctuation en français ? Ou encore apprendre comment surmonter la panne d'écriture. Je vous attends de l'autre côté sur écriredelafiction.com. Le mot juste, c'est juste un mot.
Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.